Écoutez, écoutez bien.
C'est Bruit de fond avec Thomas Capron. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, Patrick nous reçoit chez lui sur le Mont Pereux à Saint-Martin-du-Vivier. Prof d'espagnol, fils de résistant, il participe dès son plus jeune âge à la lutte contre l'oppression de la guerre d'Algérie au Nicaragua des années 80 et j'en passe. En 1994, le gouvernement mexicain mate une insurrection indienne armée complètement inattendue. Médiatisée, cette répression émeut l'opinion publique et les néo-zapatistes reçoivent des soutiens du monde entier. Patrick en fait partie et c'est tout naturellement qu'il se rend au Rassemblement intergalactique contre le néolibéralisme et pour l'humanité en 1996 au Chiapas. Il y représente l'association pour le Rassemblement des travailleurs de Rouen. Première escale, Mexico.
C'est un pays fantastique parce que c'est d'une variété extraordinaire. Mexico, c'est dans un cirque montagneux. Alors, c'est vrai qu'avec la fumée qu'il y a, on voit plus tellement les montagnes. Mais enfin, quand on commence à grimper, là, on voit un peu. Donc, on a des montagnes assez hautes. Je ne sais plus l'altitude, mais ça doit être dans les 3000 mètres quand même, le cirque montagneux autour de Mexico. Ce qui fait qu'on n'a pas une végétation typiquement tropicale. C'est quand même une végétation un peu tempérée à ces altitudes-là. Mais on redescend très vite, et dès qu'on redescend, c'est à nouveau de la végétation tropicale. Alors bon, il y a des coins plus ou moins désertiques, façon le Mexique qu'on imagine dans les westerns, un peu aride et tout ça. Mais aussi, il y a des coins aussi, alors de mangroves, par exemple. Tu vois, donc c'est super, parce qu'on voit vraiment quasiment, au moins toute la moitié sud du Mexique, disons, à partir de Mexico, avec des variétés fantastiques. Bon.
Et ce voyage-là, tu l'as fait Tu l'as fait tout seul. Enfin, t'étais.
Enfin, tout seul. Je me suis rendu compte en arrivant que des gens qui étaient avec moi dans le car allaient au même endroit que moi. Je m'en doutais un peu parce que bon, c'était. Ils avaient pas l'air, franchement, ni de paysans mexicains qui rentraient chez eux, ni non plus d'hommes d'affaires ou de quoi que ce soit. On s'est retrouvé ensuite au même rendez-vous à San Cristóbal. Et là, dans un vaste bordel très sympathique, mais qui n'était pas si bordélique que ça, finalement. On a réussi à avoir chacun les consignes de ce qu'on faisait, d'où on allait, etc. Et à partir de là, on nous a tous emmenés en car, alors là, ça devait être des cars de location, je suppose, jusqu'à à ce qu'ils appellent un Aguascalientes. Alors, Aguascalientes, en fait, tous les endroits servant à des rencontres un peu élargies, les zapatistes, les néo-zapatistes appellent ça Aguascalientes. Alors, les fameux Aguascalientes, enfin, les lieux de rencontre. Donc, le premier où tout le monde a été concentré pour le premier soir, c'est un tout petit village dans la montagne assez haute vers le nord de San Cristóbal qui s'appelle Oventic. Alors, le nom est typiquement indien. Et puis, ensuite, en fonction des, appelons ça des commissions auxquelles on participait, on était répartis sur différents lieux de rencontre. Et moi, il s'est trouvé que j'étais dans celui qui était le plus loin, c'était La Realidad, qui se trouve alors là, perdu dans la forêt vierge, vers la frontière guatémaltèque, en gros. Alors, en revanche, quand on redescend sur La Realidad, alors là, c'est, il commence à faire chaud, parce que à Oventic, le matin, il fait vraiment froid. Hein. Ensuite, ça devient franchement poisseux, et là, on s'enfonce dans la forêt vierge. Pendant que j'ai été à La Realidad, j'ai vu trois fois le soleil. On devait être à peu près 1500 sur les 5000 en tout. On devait être à peu près 1500 à La Realidad. Enfin, au bout de deux jours, c'était bouillasse maximum. Les rêves de Mexico, ensoleillé et tout, là, c'était raté. Ah, mais comme ce n'était pas vraiment pour ça que j'y allais, ce n'était pas trop grave.
Et donc là où vous êtes arrivé, il y avait quoi? Il y avait des tentes de...
Alors, non, ce n'était pas des tentes.
En pleine forêt ou...
Oui, alors c'était une clairière ouverte en pleine forêt. En fait, alors la clairière avait déjà été en partie ouverte depuis un moment parce qu'il y avait le fameux village de La Realidad. Alors quand on dit village, c'est minuscule, hein. Je veux dire, il y a quoi, peut-être 20 familles, mais c'est vraiment 20 comme grand maximum. Mais alors, en plus du village habituel, disons, Et il y avait une sorte de grand espace dégagé avec une tribune pour les intervenants, etc. Et puis, pour dormir, il y avait ce qu'on appelle un galpon, c'est-à-dire des poteaux, des arbres, hein, ni plus ni moins, plantés en terre, soutenant une toiture qui était, suivant les endroits, soit en tôle ondulée, soit en palme. Et puis là, au poteau, on accrochait son hamac. Et puis, pour nous accueillir, il y avait un groupe local de musique qui nous a donné une sérénade. C'était bon, ça arrivait souvent après, presque tous les jours il y en avait.
Ah oui.
C'est redoutable. Il y a deux façons de jouer de la musique, ou on joue juste ou on joue mexicain.
C'était une commission particulière pour que oui. J'atterrisse là, non?
Oui. C'était une qui parlait plus spécifiquement des formes de lutte politique contre le néolibéralisme. Parce qu'il y a des commissions qui étaient plus sur les aspects culturels, par exemple, les droits des femmes, toutes des choses comme ça. Bon, là, c'était celle des luttes.
Vous étiez combien dans cette commission-là?
Alors, il me semble se souvenir qu'il y avait, il devait y avoir trois commissions, je crois, à la Realidad, dont on s'était à peu près également réparti, donc je dirais à peu près quelque chose comme 500 dans celle-là, et puis 500 dans chacune des autres. Hein. Dans la commission où j'étais, il y avait aussi bien des Européens divers, mais il y avait aussi des gens alors de toute l'Amérique, aussi bien du Canada, des États-Unis, quelques-uns, et puis de tous les pays ibéro-américains. Donc dans ibéro-américain, je comprends aussi bien de langue espagnole que de langue portugaise. Et il y en avait d'autres, hein, des Africains, il y en avait un certain nombre. Dans ma commission, hein. Je sais pas combien il y en avait en tout, hein, mais là je te parle de ce. Alors, dans les commissions, quand je te dis qu'il y avait à peu près 500 personnes par commission, tu te doutes bien qu'on pouvait, c'était pas facile de travailler en permanence à 500. Donc, c'était encore subdivisé en sous-ateliers. Ah, oui. Donc là, les ateliers faisaient une centaine de personnes, quoi, en gros. Il y avait plusieurs francophones et tout. Alors, ce qui fait que il y avait besoin de traduire et que j'ai été occupé à temps plein comme traducteur. C'est ce qui m'a le plus pesé, parce qu'en fait, j'étais pas tellement libre de quoi que ce soit, j'étais tout le temps en train de bosser. Et c'est un truc qui vide la tête complètement, ça, quand on traduit toute la journée, et vous voulez même, le jour de la grand meeting de fin, m'appeler à la tribune pour traduire les propos de Daniel Mitterrand, mais ça, j'ai dit non. J'y vais pas. Voilà.
Carabina 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre quieren, mi sangre les doy. Por los habitantes de nuestra nación.
Carabina 30-30, corrido mexicain que Patrick a chanté à la Realidad avec le commandant Tacho, un des chefs de file du mouvement. Il a aussi rencontré le sous-commandant Marcos.
Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quiebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre quieren, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación.
Le plus connu de tous, c'est Marcos, parce que médiatiquement, il plaît à la presse, mais c'est le seul qui soit pas indien. Et il n'est pas commandant. Tous les commandants sont indiens. Que ce soit les commandants hommes ou les commandants femmes, ils sont tous indiens. Marcos n'est pas indien. Lui, alors, il a expliqué ça au cours d'interview ou autre. Il faisait partie d'un groupe de Mexicains tout venant, plus ou moins révolutionnaires, qui, après les luttes des années, la fin des 70 et 80, s'était dit, il faut aller voir les Indiens et les convaincre, etc., etc. Une démarche un peu populiste, quoi. Et puis, en fait, de convaincre les Indiens, c'est les Indiens qui l'ont convaincu, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, il a adopté leur point de vue, leur façon de voir les choses, ce pourquoi ils luttaient aussi. Et de fait, du petit groupe, il est le seul à être resté avec eux. Et je crois que de tous les sympathistes pur sucre, c'est le seul à pas être indien. Alors, il est pas bien difficile à reconnaître hein, parmi l'ensemble des sympathistes, parce que les Indiens du Chiapas sont vraiment petits. Et je pense pas qu'il y ait quelque chose de génétique, mais je crois que c'est simplement des siècles d'insuffisance alimentaire quoi, qui jouent. Donc, le commandant Tacho, chapeau compris, il m'arrive à l'oreille. Alors que Marcos, il est au moins de ta taille, c'est-à-dire pour les auditeurs, nettement plus grand que moi. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi qu'il a une culture générale assez considérable tout de même, qu'on sent des influences littéraires. Alors ça peut être aussi bien des influences de classiques de la littérature espagnole, je sais pas moi, du XVIIe siècle par exemple, que d'auteurs du XXe siècle comme Cortázar, qu'apparemment il aime beaucoup, moi aussi d'ailleurs. Et tout ça, ça fait... une façon de dire les choses extrêmement particulière qui n'a rien à voir avec le vieux discours un peu dogmatique, cérémonieux et tout ça quoi. C'est pas du tout le discours politique habituel d'aucun bord. C'est concret, mais en même temps c'est un discours de lutte.
Patichat voulait être zapatiste quand elle serait grande. Cette date probable était pour Patichat très proche, puisque d'après ses calculs, à 6 ans, on est assez grand pour traverser la frontière de la rivière. Et partir avec ces hommes et ces femmes qui marchent la nuit, transportant des armes et des nuages pour protéger leur chemin. Un après-midi, alors que nous tentions seuls la traversée de la rivière, Artemio apparut les yeux embués de larmes. Patichat était malade, et la fièvre commençait à l'emporter, loin de nous. Nous nous rendîmes à la cabane d'Artemio. Patichat brûlait de tremblements fiévreux. Nous fîmes tout ce qui était possible sur place, sans médicaments, sans docteur, sans rien. Et la nuit tombée, les chiffons mouillés sur le corps de Patichat séchaient rapidement. Elle cessa de trembler, ferma les yeux et finalement se mit à refroidir. La fièvre l'abandonnait en même temps que la vie. Patichat n'a jamais existé aux yeux de ce pays. Elle n'est jamais morte parce que sa naissance n'a été inscrite sur aucun registre. Non nato, c'est-à-dire non né. Telle serait plus tard la mention sur un document perdu parmi tant de bureaux et de fonctionnaires. Des enfants comme Patichat, il y en a eu, et il y en a beaucoup, qui partagent ses peines et ses douleurs. Ils ne sont jamais morts, parce qu'ils ne sont jamais nés. Ce sont des morts qui ne valent rien et ne comptent pas lors de l'assignation des budgets, ou lors d'élections avec une époustouflante majorité pour les candidats des majorités, ni lors de la signature de traités internationaux de commerce. Il est douloureux de savoir que l'histoire de Patichat n'est pas une fable, que c'est une réalité courante dans notre patrie. Mais ça n'est pas le plus terrible. Ce qui est sinistre, c'est que nous soyons obligés de prendre les armes contre le gouvernement suprême pour que vous, enfants d'autres terres, connaissiez cette histoire et constatiez que ce qu'il s'y passe n'est pas juste. Les Patichats qui ne naissent jamais et meurent toujours pullulent sous les cieux du Mexique. Je vous demande si nous pouvons continuer de connaître ces injustices et faire comme si de rien n'était, comme si personne n'était né et personne n'était mort. Je vous demande si, sachant cela, nous devons nous contenter de la montagne de promesses avec laquelle le mauvais gouvernement compte nous arracher nos armes et notre dignité. Je vous demande si, avec ce gros poids sur la poitrine, nous devons nous rendre. Je suis sûr que non. Ne l'oubliez pas. Ne nous oubliez pas. Montagne du sud-est mexicain, sous-commandant insurgé Marcos.
Il est évident qu'il milite d'abord pour la reconnaissance de leur intégrité en tant que peuple au pluriel d'ailleurs, parce qu'il s'agit de plusieurs peuples différents, mais avec des traits communs importants. Alors, les reconnaissent sous un peu tous leurs aspects. Bon, d'abord, le droit à leur propre langue. Alors ça, le droit, ils le prennent. Hein. De toute façon, c'est les langues qu'ils parlent. Il y a y compris pas mal de gens qui parlent pas espagnol au Chiapas. Hein. La langue, ils la parlent, bon, mais elle n'est pas reconnue officiellement. Enfin, alors là, après, ça dépend des États du Mexique. Il y en a qui sont un petit peu plus avancés que l'autre dans la reconnaissance. Mais globalement, elles sont pas reconnues, leur langue. Hein. Il doit y avoir au moins 7 ou 8 langues en comprenant l'espagnol. Le tzotzil, qui doit être une des plus importantes en nombre de gens qui la parlent. Le tzeltal, qui doit venir juste après. Toholabal, soke, et un petit peu de mam, qui est un peuple dont le plus gros se trouve de l'autre côté de la frontière, au Guatemala. Il y a un peuple dont j'ai oublié s'il était de la famille maya ou d'une autre famille de peuple, qui est le peuple chol. Après, c'est compliqué parce que il y a par exemple un ensemble qui apparaît souvent comme indépendant, c'est les chamulas. Il semblerait que les chamulas, ça soit en fait une partie des tzotzil. On dit quelquefois qu'au Mexique, l'espagnol n'est que l'une des 50 et quelques langues parlées. Même si les statistiques le disent pas, mais c'est toujours pareil, hein, les statistiques sont faussées. On ne recense comme indiens que ceux qui vivent dans les communautés traditionnelles. Un indien qui va travailler en ville, par exemple, il est considéré comme non-indien, quoi, comme métis ou je ne sais quoi, hein, dans les statistiques. La tradition maya, c'est une tradition d'agriculture semi-itinérante, sur brûlis, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que c'est des peuples qui défrichent un coin de forêt vierge, qui la mettent en culture pendant 4 à 6 ans en général, puis après, on décide que la nature doit reprendre ce qu'on lui a emprunté, donc on laisse la forêt regagner et on va défricher à un autre endroit, etc. etc. Bon, ça c'est la philosophie d'à peu près tous les peuples indiens, au moins à ma connaissance. Ça veut dire aussi qu'en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas d'idée de propriété de la terre au sens où on l'entend en Occident. C'est-à-dire que pour nous, propriété, ça veut dire d'une terre délimitée par des bornes, donc qui est forcément toujours à la même place. Or, pour eux, c'est pas ça. En fait, ils considèrent plus qu'on a un droit de jouissance qu'un droit de propriété. Mais le droit de jouissance, c'est ça qui leur a souvent été contesté par les grands propriétaires terriens du Chiapas. C'est-à-dire que pendant des siècles, ils ont attendu qu'ils défrichent un coin, puis qu'une fois qu'il était défriché et mis en culture, les grands propriétaires chassaient les Indiens et s'installaient à leur place. Alors, c'était pas du tout le but de la manœuvre, évidemment. Hein. Alors, au Chiapas, les autorités indiennes, c'est des gens qui sont élus par la communauté pour la représenter, qui ne sont en aucun cas des chefs, qui sont uniquement des représentants. Hein. Bon, ils sont souvent plusieurs, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est rare qu'on ait une personne toute seule. Et un des principes de base justement du fonctionnement politique indien, c'est ce que les zapatistes appellent mandar obedeciendo, mot à mot commander en obéissant. C'est-à-dire que celui qui commande obéit à l'ensemble de la communauté. Et c'est seulement au nom de l'ensemble de la communauté qu'il peut prendre des décisions. Alors qu'ils définissent par opposition la façon occidental, disons, de commander, en appelant ça mandar mandando, c'est-à-dire commander en commandant. Et ça, c'est bon, l'autorité autoritaire, hein, et non plus l'autorité respectée parce qu'elle est l'émanation de la volonté commune. Ce qui est intéressant aussi chez les zapatistes, enfin les néo-zapatistes actuels, c'est qu'ils n'ont pas hésité, alors que dans l'ensemble, ils se réclament de la tradition des peuples mayas, ils n'ont pas hésité à bousculer la tradition quand elle ne leur semblait pas satisfaisante. Par exemple, quel était le statut des femmes dans la société maya ancienne, antérieure à la colonisation? On ne sait pas trop, mais on sait que, en tout cas, depuis la colonisation, le statut des femmes était vraiment pas terrible, un statut d'infériorité, globalement. Les femmes insurgées ont décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Donc, elles ont pris les armes à l'égal des hommes, elles ont leur mot à dire à l'égal des hommes, et à commencer par 1. Interdiction de l'alcool dans tout le territoire contrôlé par les zapatistes. Elles en avaient marre que leurs mecs rentrent bourrés et les tabassent, ou tabassent les gamins. Donc, plus une goutte d'alcool. Interdit. Quelques mesures comme ça, mais qui, quand même, changeaient la vie quotidienne de façon assez radicale. On prend dans la tradition ce qui semble au bénéfice de tous. Tous et toutes, bien sûr. S'il y a des choses qui sont pas comme ça, eh ben on les invente. Voilà. Et c'est ça qui me semble particulièrement intéressant, disons. Et en même temps, dans ce qu'ils ont à dire, les zapatistes, il y a des tas de réponses aussi aux problèmes qui se posent à nous, parce que bon, c'est vrai que le néolibéralisme a tendance à nous considérer même pas comme des choses, hein. Enfin, en tout cas, sûrement plus comme des personnes, à la limite comme des chiffres. Bon, il y a basta, comme ils disent, hein, ça suffit, j'existe, je suis là. Hein. Voyons, par exemple, ça, qu'est-ce que c'est, ça?
Oui, c'est la carte du Mexique.
C'est une carte que du Chiapas, mais alors, elle est absolument inutilisable, ni faite ni à faire. Le seul avantage, c'est que là, tu as les frontières de ce qu'on appelle municipios, c'est-à-dire c'est un petit peu comme des cantons ici. Hein. Ce qui fait que là, par exemple, là, c'est possible que la réalité apparaisse là-dessus. Guadalupe Tepeyac est là, ouais. Attends, si je retrouve Comitán, j'arrive même pas à retrouver Comitán. Las Flores.
La realidad, la réalité. Au Chiapas, il est possible donc que la réalité apparaisse sur les cartes. Laissons à Patrick le soin de la chercher. Merci à lui et merci à vous pour l'écoute. Je vous rappelle les coordonnées électroniques de l'émission www.bruitdefond.free.fr, wawawa.bruitdefond au singulier et en minuscule.free.fr pour toutes les infos et pour réécouter en ligne. Recherches et mises en voix, Alice Dehay. Relations invitées, Michael Frébourg. Montage et réalisation, Thomas Capron.
Non, mais la réalité n'est pas non plus sur cette carte-là.
On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut!
C'est fini, là?
Oui, c'est...
On peut dire des bêtises?
Ouais. The top of 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 the top of